Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez que le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de vous partager cet enseignement qui est très important. Donc ouvrez vos cœurs. Écoutez bien. Ouvrez vos cœurs pour être attentifs et demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire, vraiment de merveilleux. Où nous en sommes aujourd'hui ? D'abord, j'ai reçu cet évangile et je cherchais un petit peu quelque chose. J'avais lu la première lecture, j'avais une idée de ce dont je voulais parler. Le Seigneur me donnait quelque chose sur l'achèvement dans la divine volonté. Et puis après, j'avais lu la première lecture d'Esdras. Mais là, quand je l'ai écouté une autre fois, ça m'est vraiment tombé dessus. Voilà, alléluia, gloire à toi Seigneur, amen. Eh bien oui, l'ancienne alliance, le temps de la grâce avec Jésus et la nouvelle ère de la divine volonté. Vous voyez, le temps de la première alliance, cette loi, ils étaient heureux, la joie du Seigneur était leur rempart. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutaient cette loi de Moïse qui était maintenant de nouveau proclamée par Esdras, ici, là, qui étaient prêtres et scribes, et les lévites en donnaient l'explication. Bien sûr, c'était encore très loin de la rédemption, la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'était très loin de cet évangile, puissance de Dieu pour tout homme qui croit, dira l'apôtre Paul au début de la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16. C'était la loi, c'était les prescriptions, mais ils étaient heureux. Ils étaient là, ils écoutaient, ils buvaient cette loi. Dieu avait commencé à se révéler à l'homme qui était en errance, évidemment perdu. Abraham part vers le lieu vers lequel je t'indiquerai. Abraham partit, l'homme était en errance, comme l'homme est en errance depuis le péché originel. Vous êtes d'accord, on est sorti du paradis, on n'a plus la divine volonté, on n'a plus la vie divine, on n'a plus rien. Donc l'homme vit cette vie comme étranger voyageur, dira l'apôtre Pierre. Voilà. Eh bien, nous étions dans cette situation. Et là, enfin, ce peuple s'était rassemblé. C'était le peuple de la loi, voyez. C'était le peuple qui déjà avait reçu cette loi sur table de pierre. dans le désert du Sinaï et qui était parti à la recherche d'une patrie bien meilleure, dira l'apôtre Paul dans la lettre aux Hébreux en faisant l'éloge de cette foi. Ils avaient la foi, ils avaient la foi, ils avaient la foi, ils avaient la foi. Voilà, au chapitre 11. Donc, ils étaient pleins de joie. La loi ressuscitée dans leur cœur. Israël, le peuple d'Israël, c'est pas vrai? Et alors on passe maintenant dans cet épisode extraordinaire du Nouveau Testament. Écoutez bien, là Jésus, voyez, appelle ses 72, il les désigne encore, il est là et il les envoie deux par deux en leur disant d'aller dans toutes les villes, dans toutes les localités, parce que la moisson est abondante. Voyez, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, il les invite à prier. Et voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien sûr, il les envoie dans la puissance de l'Esprit. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'ils vont faire des miracles. Hein, jusqu'à, certains diront, on a vu Satan descendre du ciel, tomber du ciel. Hein, Satan est tombé, voyez. Hein, il guérissait les malades, hein, il faisait des choses extraordinaires. Ils étaient comme des enfants qui jouait avec ses dons de Dieu, les dons charismatiques. Nous avons eu le beau témoignage de Marie-Pierre qui a été guérie. Vous avez été voir le père Manjacal, certains, et c'est extraordinaire la puissance de Dieu. Hein, des dons charismatiques qui libèrent, les démons qui sortent, les gens qui se mettent à marcher, d'autres à parler, des guérisons de tout type, c'est extraordinaire, c'est vraiment... Et les apôtres étaient fascinés, évidemment. C'est la première fois qu'ils jouaient. Dieu nous donne une puissance extraordinaire. Et c'est vraiment le temps de la rédemption, vous voyez, 72. Mais 72, ça veut dire beaucoup plus, bien sûr. 72, ça veut dire beaucoup plus, c'est un chiffre symbolique. Vous me suivez? 72, ça veut dire beaucoup plus. Hein? Pourquoi? Parce que là, on est encore sur terre. Vous comprenez? On est encore sur terre, là. 72, le Christ n'est pas ressuscité non plus. Et même quand le Christ va ressusciter, pendant 2000 ans, l'Église est sur terre. On est sur terre ici, vous êtes d'accord? Et vous voyez bien que la mission sur terre, bon, ben, elle se fait. Mais c'est quand même pas, c'est pas un long fleuve tranquille. L'Église est persécutée, il y a peu de prêtres. On fait venir des prêtres maintenant d'autres pays. Les Africains viennent nous évangéliser. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein, et etc., etc. Donc c'est quand même, c'est le temps de la mission. Mais tous ces martyrs, tous ces saints qui passent de l'autre côté, évidemment, à l'Église, de l'autre côté, comme me disait un prêtre, un provincial, elle a pas de souci, hein, elle a pas de souci, l'Église du ciel. Il y a des saints, hein, il y en a, il y a 2000 ans de saints. Hein, on vient de fêter la petite Thérèse, on fête les anges, et demain on va fêter Saint François, le poverello, hein, le petit pauvre, vous voyez, extraordinaire. Donc, pas de souci pour l'Église, hein, vous inquiétez pas. Ici, évidemment, elle est pauvre, elle est petite, elle le sera de plus en plus petite, hein, comme la terre d'ailleurs, hein, parce qu'un jour la terre disparaîtra, hein, pas vrai? C'est pas éternel, hein, tout change, tout se transforme. Hein, ça sera une autre terre, des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Amen. Mais je reviens en 72. Ils reçoivent la puissance de Dieu. Vous suivez bien? Ils reçoivent la puissance de Dieu. On est dans le temps. On est dans le temps et déjà, il y a quelque chose qui se préfigure. Vous voyez? Ils vont dans toutes ces villes. Hein, ils mangent, ils boivent, hein, ce qu'on leur donne, etc., etc. Évidemment, il y en a qui ne les accueillent pas, et ben tant pis pour eux. Il y a toujours des gens qui ont la tête dure et qui ne veulent pas écouter le message de l'Évangile, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu et dire « Amen, Seigneur, je te suis, tu es le chemin, la vérité, la vie ». Bon, ben ça, on le sait, ce n'est pas nouveau. On continue. Mais alors, regardez bien, mes amis, maintenant. Donc là, c'est le temps de la rédemption, le temps de la loi, de la grâce. De la loi à la grâce de Jésus-Christ, de la grâce à la divine volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez. Et beaucoup maintenant cherchent ça. Ce qui est préfiguré dans cet évangile des 72, ça se réalise complètement. Mais ce sont des millions, ce sont des milliers d'armes, des milliers d'actes, des milliers de vérités divines qui sont révélées, qui transforment les cœurs dans le passé, le présent et le futur. C'est absolument extraordinaire. Ce sont les nouveaux apôtres de la divine volonté. Jésus dit à Louisa, la même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Il y a eu le royaume de la grâce, le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dit, hein, très, très, très clairement, il dit que le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché de vous. La puissance du Saint-Esprit que je vous ai donnée pour faire des miracles, mes apôtres. La puissance du Saint-Esprit qui vous touche maintenant en écoutant cette parole et qui vous remue dans votre cœur. Ces dons du Saint-Esprit, ces miracles, ces signes, ces prodiges que nous avons par la foi en Jésus-Christ, dira Paul au chapitre 3 de la lettre aux Galates. Vous avez cru, non pas à cause des prescriptions de la loi, mais à cause de la foi. Voyez, c'est ça qui nous a transformés. Eh bien, cette même chose maintenant se passe pour entrer dans l'ère nouvelle du fiat suprême, c'est-à-dire l'achèvement complet, le fruit complet de la rédemption. Ce que Jésus faisait à une petite échelle ici va se faire à une échelle qui est absolument infinie, qui dépasse le temps. Il l'a dit, vous ferez des choses plus grandes encore que les miennes. Vous ferez les choses que j'ai faites, dit Jésus, mais vous en ferez de plus grandes encore. Vous, les apôtres des derniers temps, les apôtres du fiat suprême. Voilà, et il le dit, c'est très important cet enseignement, c'est absolument incroyable. Il se passera la même chose pour le royaume du fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Vous pouvez vous considérer tous filles et fils de Jésus. Tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières, pour que mon royaume puisse venir bientôt, et mes manifestations concernant ce royaume. J'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres. Les 72, les apôtres, les prêtres, Esdras, les Lévites qui expliquent. Vous avez vu ? Les Lévites expliquaient au peuple la loi. Voyez, Dieu, Jésus ne vient pas abolir, il vient accomplir. Pareil dans le Nouveau Testament, pareil maintenant dans le Fiat suprême. J'unirai tout. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres afin que tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, comme les seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du Père Maria di Francia, qui témoigne tant d'intérêt, qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Le dernier saint qu'a canonisé Saint Jean-Paul II en 2005, c'était le confesseur de Louisa et le censeur ecclésiastique de ses écrits. C'est pour ça qu'ils sont accueillis et approuvés par l'Église. Non, non! Je l'ai moi-même organisé, dit Jésus. C'est un acte providentiel de ma suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et annonciateur du divin fiat. Extraordinaire. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement et je lui donne une lumière spéciale, parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, et de même qu'une grande disposition de la part de celui, et une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Les 72 préfigurent les apôtres du royaume de la divine volonté. Ce que aujourd'hui on est au commencement et nous découvrons, vous qui l'entendez, vous vous nourrissez de ces vérités et vous êtes les apôtres de la divine volonté. Jésus dit à Louisa, fais ta besogne, il n'y a rien de plus important que de faire connaître le royaume de la divine volonté. Voyez comme là, dans le temps de la rédemption, rien n'était plus important, comme le fait le Père que vous avez été voir, le Père Manjacal, il annonce le Christ ressuscité et la parole est confirmée, comme dit la finale de l'évangile de Marc, par des signes et des prodiges qui confirment que le Christ est vraiment vivant et ressuscité. Et c'est ça que les prêtres doivent faire. Ils doivent annoncer un Christ vivant, ressuscité, une parole qui touche les cœurs et qui transforme les cœurs, qui les touche, qui les transforme, qui les guérit. On est séduit, voyez, par ces vérités de l'Évangile. Il est vivant, l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
La parole est vivante et efficace, dira l'apôtre, hein, dans Hébreux 4,16. Voilà. Et là, pareil. Mais ça fait 2000 ans, Jésus dit. Ça fait 2000 ans que vous méditez sur ma rédemption. Maintenant, ça suffit. Tout le fruit de la rédemption, c'est pour entrer dans la divine volonté. C'est pour que l'homme puisse récupérer et revenir dans la volonté de Dieu, dans la divine volonté, et en vivre comme au début. Que cette divine volonté puisse générer ses pensées, ses paroles, ses regards, ses gestes, ses actions, pour que tout dans l'homme qui est un petit Dieu, vous serez comme des dieux, dit Jésus, que tout dans l'homme participe à la puissance infinie de Dieu. Et que vraiment, ça soit, l'homme est sur terre comme Adam, c'est-à-dire il déploie toute la puissance de Dieu, il ordonne la création, il ordonne tout. Il est vraiment ce Jésus sur la terre. C'est beaucoup plus que d'aller de maison en maison. Vous comprenez donc, même l'évangile que nous lisons, aller de maison en maison, manger ce qu'on vous donnera, vous méritez votre bon salaire, bien sûr, allez, guérissez les malades, imposez les mains, faites des libérations, allez, proclamez, priez aussi pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson, les ouvriers sont peu nombreux, toutes ces choses, c'est petit, c'est local. C'était là-bas, sur la terre de Jésus, vous comprenez? En fait, tout ça n'est qu'une préfiguration de ce que nous, maintenant, nous pouvons faire dans la divine volonté. Quand vous êtes devant le tabernacle et que vous dites « Seigneur Jésus, maintenant, je me mets devant tous les tabernacles du monde qui ont existé, qui ont été, qui sont et qui seront, et je proclame que tu es le Dieu vivant et je t'offre cet amour qui s'immole encore comme au jour de ta passion et jusqu'à la fin des temps, puisque tu es immolé jusqu'à la fin des temps, Jésus, je prends cet amour et je l'offre au Père et je répare pour toutes les messes, pour toutes les adorations distraites, pour tout ce qui n'a pas été fait. » Dans ta lumière, dans ton amour, dans ta divine volonté. Vous imaginez, et j'envoie cette lumière et je frappe à la porte de tous les cœurs pour dire Jésus est vivant dans l'Eucharistie, Jésus est vivant dans l'Eucharistie, Jésus attend votre amour, Jésus a soif de vos cœurs pour se donner comme nourriture et pour vos cœurs, que vos cœurs deviennent des hosties et que vous puissiez aussi lui donner son amour pour le nourrir de lui-même. Comprenez, les apôtres, les 72, c'est vous. Et si maintenant vous commencez à annoncer le royaume du Fiat suprême, le Seigneur va vous donner cette joie, ce bonheur, comme c'est ce peuple d'Israël. La joie du Seigneur est dans votre cœur. Pourquoi ils avaient une grande joie dans leur cœur? Parce qu'ils écoutaient la loi de Moïse qui ressuscitait. Pourquoi on est dans la joie du Seigneur? Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, dit l'apôtre. Parce qu'on écoute ce message de la mort et de la résurrection de Jésus, son sang, sa croix, le don de l'Esprit qui remplit nos cœurs et qui nous enivre de l'amour pour notre bien-aimé. Et pourquoi on est heureux dans ce temps qui est donné maintenant? Un père me disait, on est dans un temps charnière. Il me disait, hier on était réunis avec les prêtres, on est dans un temps charnière. Oui, on est dans un temps charnière. Pourquoi maintenant vous êtes plein de joie et vous allez avoir une joie qui ne finit pas? Parce que maintenant Dieu vous fait le don de sa divine volonté, le prodige des prodiges, le don, il suffit de l'accueillir, il suffit de se l'approprier. Vous savez qu'elle est là, vous savez qu'elle existe, vous n'avez plus qu'à la prendre, à la faire vôtre, à la posséder, il vous la donne. Il n'y a pas de plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand don, je répète, que Dieu ait fait à l'humanité. La divine volonté, c'est l'accomplissement de tout, c'est l'achèvement de tout, de toute l'œuvre de la création qui était bloquée, paf, à cause du péché. la création entière ne pouvait pas se déployer. Hein? Vous comprenez? Quand nous, les enfants de Dieu, nous accueillons le don de la divine volonté, et encore plus que nous devenons ces ouvriers de la dernière heure, hein, ces ouvriers, ces messagers, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se passe ce que saint Paul dit au chapitre 8 de la lettre aux Romains, la création tout entière qui souffrait dans les douleurs de l'enfantement voit la révélation des fils de Dieu. Ils sont pleins de Dieu, ils sont pleins de divinité. Ça y est, l'homme de nouveau opère dans la divine volonté. Elle devient source de sa pensée, de son agir, de sa langue, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, tous ses mouvements, tout en nous redevient, retourne vers le divin et dans la plénitude. Comprenez? Et là, vous êtes apôtre tout le temps. Vous pouvez être apôtre aujourd'hui, demain. Vous faites exactement les choses mêmes de Jésus à 80 ans, comme à 70, comme à 60, dès que vous avez l'âge de raison, comme disait ici le texte hein, du livre hein, de la loi, pour les enfants qui comprenaient. Hein, dès que les enfants, tout le monde était là, les hommes, les femmes, les enfants, en âge de raison, qui comprenaient. Alléluia! Alléluia! Voilà! Tout est dit, tout est révélé. Alléluia! Réjouissons-nous, mes amis! Et disons oui à Jésus maintenant, chantons bien sûr, louons le Seigneur, disons oui à Jésus. Les 72, ils sont bien plus nombreux. Et si aujourd'hui vous faites votre, cette divine volonté, si vous donnez votre fiat, et si vous rentrez dans le livre du ciel, toutes ces vérités vont vraiment être comme des trompettes qui vont réveiller tout votre cœur, tout votre être, dit Jésus. Toutes les lumières qui découlent des vérités que révèle Jésus sont des trompettes. Vous allez être une trompette, voyez, une trompette, vous allez être des trompettes partout. Vous allez aller, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais c'est fort, mais c'est puissant, mais il n'y a rien à dire. Oh là là, ça va être extraordinaire, vous voyez, ça va être extraordinaire. Hein? Et vous allez avoir ces vérités en vous comme des armes, parce que Jésus dit que toutes les vérités, toutes les connaissances dans la divine volonté, et je termine avec ça, sont vraiment l'armée de Dieu, le Seigneur des armées. Vous voyez, c'est une armée, et ces armées, hein, cette armée dont nous sommes les soldats, nous avons comme arme, vous voyez, nos actes dans la divine volonté, nos prières, nos petits sacrifices, nos petites, quand on fait le ménage, quand on fait les petites choses, quand on parle, quand on marche dans la rue, tout, puisque tout acte avec l'intention de le faire dans la divine volonté devient un acte divin. Donc c'est un acte éternel, c'est une vie divine qui naît dans le monde, vous voyez, c'est extraordinaire, hein, c'est fou. Et là, on devient vraiment ces soldats, ces apôtres des derniers temps. Saint Louis Grignon de Montfort, les apôtres des derniers temps, qui dépassent comme des arbres gigantesques les apôtres, les petits arbres des débuts des temps. Mais là, Jésus dira à Louisa, des soleils comparés aux étoiles qu'étaient les apôtres et les saints jusqu'à l'ère de la divine volonté. Des soleils, vous inquiétez pas, ils ne sont pas jaloux, hein, et ne relevez votre auto-estime trop basse. C'est de la grâce, tout est grâce. On est des pauvres, on est des pécheurs. Mais avec Dieu, on est tout. Déjà le disait Thérèse. Thérèse, sans Dieu, c'est rien. Mais Thérèse d'Avila, avec Dieu, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Recevez. Maintenant, je demande au Seigneur que le Saint-Esprit descende sur vous. Vous tous qui êtes là, vous tous qui écoutez. Le temps est venu. La trompette. Les seaux sont ouverts. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Émerge devant toi, regarde émerger ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle. Regarde-toi entouré de ce soleil enveloppé de lumière, avec Maman Marie, avec Louisa, avec tous les saints, avec tous les anges. Oui, le Seigneur, comme il l'a dit à Jérémie, ne dis pas « je suis un enfant », je mets ma parole dans ta bouche, je suis avec toi. Vas-y, construis, détruis, relève, il dit au prophète. Vas-y, fais, bâtis, démolis, prêche à temps et à contre-temps, dira l'apôtre Paul. Les ouvriers sont peu nombreux, mais toi tu es là. Et le Seigneur te donne maintenant la plus grande lumière, le plus grand don, ce que personne n'avait encore reçu, ce qui n'avait jamais été révélé, le mystère de sa volonté, gardé de toute éternité pour les derniers temps, le mystère de sa volonté pour lequel tout a été créé et pour lequel Jésus est venu, a souffert et mort sur la croix, a versé son sang et ressuscité d'entre les morts pour que justement il puisse réaliser et accomplir en nous la restauration de ce royaume de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Tu es le paradis de Dieu. Dieu que tu as exilé par le péché qui a dû s'enfuir de ce paradis que tu es, aujourd'hui reviens avec le don de la divine volonté. Tu es le paradis de Dieu. Aujourd'hui, Jésus revient vivre avec toi, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.
Thank you.